Néhémie se retrouve dans cette période où c'est qu'il y a le temple de l'Éternel qui est reconstruit, mais tout autour c'est la désolation, la pauvreté, les murailles sont en ruine, les portes sont consumées par le feu, et cet homme qui est un petit peu, qui aime son pays, il est touché par cette situation. C'est l'image aussi pour chacun d'entre nous de ces situations dans nos vies qui peuvent être en ruine malgré le bien-être que l'on peut vivre dans certains domaines. Il y a des domaines dans nos vies qui sont comme en ruine, qui sont comme détruits par l'ennemi, et quand on y réfléchit, ça nous attriste. Mais Néhémie n'est pas un homme à laisser la tristesse l'accabler, c'est un homme de prière. Et la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu, la prière qui est efficace, le modèle de prière qui plaît à Dieu et qui permet que la prière soit exaucée. Dans ce chapitre 2, ce que nous allons lire, c'est que nous allons voir cette prière est exaucée. Ah, il a fallu attendre un petit peu. Ça n'est pas en claquant des doigts que la prière a été exaucée. Mais pendant plusieurs mois, 4 mois exactement, Néhémie a fait cette prière et au bout du 4e mois, voilà ce qui s'est passé. Chapitre 2 de Néhémie, donc au mois de Nisan, ça correspond à peu près à mars, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Notez bien cette expression. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambana, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'avaient appris, eurent un grand déplaisir, et de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons !» Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le horonite, Tobija le serviteur ammonite, Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Vous avez noté cette expression ? La bonne main de l'Éternel était sur moi. Et c'est vraiment la pensée centrale de ce message ce matin. vous voyez affiché le chapitre 2 qui est résumé par cette phrase, la direction divine. Alors que Néhémie a passé du temps dans la prière pendant 4 mois, il a intercédé, il a pleuré, il a jeûné, il a fait toutes ces choses-là pour avoir vraiment une réponse de Dieu. Là, maintenant, c'est Dieu qui est en train de le diriger étape par étape. On se retrouve aujourd'hui dans une époque où les gens, même chrétiens, parfois ne savent pas comment est-ce que Dieu peut nous diriger dans notre vie de tous les jours. Et dans ce chapitre 2, nous voyons un modèle, une fois de plus, Néhémie est ce modèle d'un homme qui se laisse diriger par Dieu, un homme sur qui la bonne main de l'Éternel est. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez que la bonne main de l'Éternel soit sur vous? Est-ce que c'est possible? Oui. Simplement, suivant les conseils que la parole de Dieu nous donne. La bonne main de Dieu veut être sur nous. Ce n'est pas une main qui écrase, c'est une main qui soutient. Ce n'est pas une main qui asservit, c'est une main qui soulage. C'est une main qui nous aide quand on tombe à nous relever. Dieu a toujours la main de la grâce tendue vers nous et nous devons avoir la main de la foi qui la grippe afin que ce mélange explosif puisse amener la vie éternelle dans notre vie de tous les jours. Mais combien c'est important de pouvoir discerner dans notre vie la direction de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Vous avez jamais fait cette prière au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? La première chose, et je vais vous les citer toutes d'entrée, mais la première chose qu'il faut faire, c'est savoir saisir les opportunités. Dieu ouvre des opportunités, mais il faut oser aussi être prudent. Savoir saisir les opportunités, oser être prudent, observer et s'organiser, ouvrir son cœur aux autres et ne pas craindre l'opposition. Vous savez qu'il y a des oppositions quand on commence à rentrer dans la volonté de Dieu? Vous avez déjà expérimenté ça? Si vous ne l'avez pas expérimenté, ça va venir vite. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a un ennemi qui a la rage de détruire. Mais nous voulons nous lever et bâtir. Et nous voulons ce matin apprendre à bâtir dans la direction que l'Éternel veut nous donner. À qui s'adresse ce message? À ceux qui, par le salut, ont eu comme un enthousiasme parce qu'ils ont découvert le pardon de leurs péchés, ils ont découvert la vie en Christ, mais ils ont senti justement une opposition qui venait. Ils ont senti qu'il y avait eu des vents contraires qui sont arrivés et du coup, ils se sont un petit peu refroidis. Ils se sont dit, ah, si c'est ça la vie chrétienne, il vaut mieux que je laisse tomber. Mais ce chapitre, il est là pour nous montrer que la direction divine, si Dieu nous accompagne, même s'il y a des oppositions, il y a sa victoire qui est au bout. À ceux qui veulent aussi une direction précise dans leur vie, on est tous confrontés, Michel le rappelait tout à l'heure, à des moments de carrefour, des décisions importantes. La plus importante de toutes, c'est devant la mort et la vie. Mais jour après jour, même si nous connaissons le Seigneur, nous pouvons faire des décisions de vie ou des décisions terrestres et de mort donc. Des décisions qui ne vont pas amener à grand chose et qui vont même peut-être détruire. Parfois, on peut faire un mauvais choix qui nous amène à du compromis et nous mettre en danger par rapport à notre foi. Mais le Seigneur veut nous apprendre à bien réagir, saisir les opportunités. Est-ce que les opportunités se présentent comme ça sans que nous ne fassions rien? Nous voyons un Néhémie qui a passé 4 mois. Le mois de Kisle, c'était à peu près novembre. Le mois de Nisan, c'est le mois de mars. 4 mois dans la prière, l'intercession. Et il a pu, à un moment donné, se dire, mais il n'y a rien qui se passe. Les jours qui passent, les semaines qui passent, les mois qui passent. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais Néhémie n'était pas de cette sorte de personne qui se décourage. Il était de celui qui est constant dans sa foi, qui persévère. Et même s'il était préoccupé, le roi l'a trouvé un petit peu différent. Et Dieu s'est servi même de cette situation parce que cet homme était tellement préoccupé par son pays qu'il avait le mauvais visage. Vous savez qu'à l'époque, celui qui était échanson du roi, il fallait pas qu'il fasse la tête, pour le dire clairement, parce qu'il risquait de la perdre. C'était aussi simple que ça, parce que le roi, il faisait ce qu'il voulait quand quelqu'un ne lui plaisait pas. Le vin, c'était le signe de la réjouissance, et si le serviteur, il faisait la tronche, comme on dit, ça plaisait pas au roi, il avait le droit de le décapiter. mais parce qu'il savait que c'était un homme fidèle, et parce que Dieu avait entendu les prières de Néhémie pendant ces 4 mois, il a permis que cette situation qui aurait été au désavantage de Néhémie se tourne à son avantage. Ça, c'est la puissance de la prière qui fait ça. Et c'est Dieu qui crée des opportunités là où on pense que nous, on va droit au mur. Mais le Seigneur, lui, il ouvre des portes là où il y a des murs, parce qu'il est tout puissant. Et 4 mois de prière qui ont préparé une opportunité. Peut-être que vous vous dites, mais moi, j'ai pas d'opportunité à saisir. Alors, réécoutez ce qu'on a dit la semaine dernière et priez le Seigneur, vous allez voir que les opportunités vont se créer. Est-ce que Zachée n'a pas eu raison? Vous vous souvenez qui c'est, Zachée? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de saisir l'opportunité? Quand Jésus lui dit, Zachée, ôte-toi de descendre là, il faut que je demeure dans ta maison. Il aurait pu dire, non Seigneur, j'ai une belle vue depuis mon arbre. C'est bien, il y a le vent qui caresse mon visage, il y a des fruits qui sont là, c'est super. Mais ça réglait pas sa situation, ça réglait pas le problème de son cœur. Il a dit oui, Seigneur, je veux. Et il a fait rentrer, pas n'importe qui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs dans sa maison. Entre nous, il y a personne qui nous écoute, hein, on est entre nous. Vous aimeriez pas que Jésus y vienne dans votre maison? Physiquement parlant, je parle là. On aimerait tous. Bon, il est présent par son esprit, mais quel privilège cet homme a dû vivre que de voir Jésus venir dans sa maison. Ça a provoqué un changement, et c'est ce qui se passe quand on laisse Jésus venir dans notre cœur. Est-ce que Bartimée n'a pas eu raison de saisir l'opportunité? Pourtant, c'était pas gagné, hein. Jésus, il était au loin, les gens le faisaient taire. Tais-toi, tu l'embêtes, tu vas pas le déranger. Mais Bartimée, il avait qu'un désir, c'était que Jésus vienne le rencontrer, que Jésus il puisse avoir un moment avec lui. Et il n'a pas regretté parce qu'il a vu la grâce du Seigneur sur sa vie, sa situation aussi qui a changé. Ça vaut la peine de saisir les opportunités quand elles se présentent. Ça vaut la peine de passer du temps dans la prière parce que Dieu déclenche des opportunités. Mais regardez cet homme, la façon dont il réagit dans ce moment-là. Dès que le roi lui pose la question « Que demandes-tu ?», il est dit « Je priais l'Éternel des cieux. » Et puis je dis… C'est-à-dire qu'il y a eu cette prière éclair. Daniel en parlait vendredi. Il y a des moments où il faut faire des prières éclair. Mais la prière éclair n'a de la puissance que parce qu'il y a eu 4 mois de prière avant. Si on fait que des prières éclair, laissez-moi vous dire, ça marchera pas. Mais par contre, c'est bon quand il y a le moment de l'action de faire la prière éclair et puis d'agir. Il y a des moments où il faut prier. Quand on est dans notre chambre tout seul, on peut se mettre à genoux. On peut passer du temps, vraiment des heures si l'on veut. Mais quand c'est le moment de rendre témoignage, quand c'est le moment de défendre sa position en Christ, quand c'est le moment de servir le Seigneur, alors il ne faut pas se mettre à prier là. C'est pas le moment de se mettre à genoux. C'est le moment de faire la prière éclair et puis d'agir selon ce que le Seigneur nous donne de faire. Et c'est tellement important de saisir les opportunités. Il y a une dame et un jeune homme qui ont saisi une opportunité. Je vais commencer par le jeune homme. C'est un jeune homme qui a grandi dans une famille où le père était alcoolique et il était violent autant physiquement que verbalement. Et ce jeune homme, il a grandi dans cette ambiance. Un jour, le beau-frère est arrivé de l'hôpital et il a dit « Ta grande sœur qui avait 11 ans à l'époque, elle est morte de sa maladie. » Et la maman qui a entendu cette nouvelle, elle a dit « C'est pas possible qu'il y ait un Dieu, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu !» Et ce jeune homme qui était là, lui, il se souvenait qu'il a vu sa grande sœur qui déclinait petit à petit. Il avait 8 ans à ce moment-là, mais il se souvient de ces paroles qu'elle disait « Seigneur, je m'approche de toi. Jésus, je te vois, tu viens me chercher. » Cette petite fille, elle est partie dans les bras de son Seigneur. Mais la maman, vous imaginez la douleur qu'elle a perdu une fille d'une leucémie à 11 ans. La vie était dure, ce garçon, il devait travailler après les cours pour rembourser les crédits que son père faisait parce qu'il dépensait des sommes faramineuses. Chaque samedi, son père y mettait le beau costume, il passait chez le coiffeur, et puis il commençait la tournée des bars et des cabarets de la ville. Et combien de fois ce jeune homme, il s'est retrouvé en pleine nuit en train de chercher son père, est-ce qu'il était à ce bar, est-ce qu'il était à l'autre, pour le ramener à la maison alors qu'il était totalement ivre. Et puis le fait que la jeune fille meure, a fait en sorte que la famille s'est totalement disloquée. Les parents ont divorcé, son grand frère il est parti dans les commandos, je ne sais plus où. Et puis, ce jeune garçon qui avait 14 ans maintenant, il a commencé à traîner dans la rue. Il a commencé à s'intéresser à la musique des Rolling Stones, à la marijuana et aux filles. Et pendant 3 ans, il est tombé dans la violence, la petite délinquance, la haine contre tout ce qui représente l'autorité. Son seul refuge, c'était la drogue. Et il voulait rien d'autre. Il passait son temps avec ses amis à aller d'un festival à un autre festival. Pourtant, Dieu a mis sur son chemin une jeune fille qui a un petit peu éclairci le ciel de sa vie. Une jeune fille qu'il a vraiment aimée. C'était pas, ça avait rien à voir avec les relations qu'il avait enchaînées. Mais comme lui, il était aussi enchaîné à la drogue, il a entraîné cette jeune fille dans la drogue. Et elle a commencé à se détourner de ses parents, elle a commencé à avoir des problèmes de santé, elle a commencé à être quelqu'un autant addict que lui, si ce n'est plus. Et puis un soir d'été, il a commencé à regarder le ciel. Vous savez, il y a des moments où tout est calme, il n'y a pas un brin de vent. Il a regardé le ciel étoilé et il a vu qu'il y avait comme une paix dans ce ciel-là, ce cosmos. Et il s'est écrié en tapant son cœur. Il a dit « Si la paix qui est en haut pouvait être dans mon cœur, combien ça serait bien ?» C'était comme une prière. Hein. Et puis un jour, il avait rendez-vous pour aller avec son dealer à un endroit précis de la ville. Et alors qu'ils sont allés avec son ami, ils sont allés au point de rendez-vous, impossible de trouver le dealer. Il n'était pas là. Alors ils sont retournés, ils se sont promenés dans le centre-ville. À ce moment-là, c'était une grande place. Et dans ce centre-ville, il y avait toutes sortes de groupes de jeunes qui étaient là, en train de jouer de la guitare avec les cheveux longs, des hippies qui traînaient un petit peu. Et il y a une dame qui tranchait un petit peu avec tous ces jeunes, qui est venue directement vers lui et qui lui a dit « Tu t'appelles Guy ?» Et le Seigneur m'a dit de te dire qu'il t'aime et qu'il peut te donner la paix que tu recherches tant. Et donc il était un petit peu abasourdi, il savait pas trop ce qui se passait. Elle lui a dit « Si tu veux en savoir plus, voici mon adresse. » Et sur le papier avec l'adresse, il y avait marqué « C'est quand tu veux. » Et elle lui a laissé ça, et puis elle est repartie. Et alors qu'elle parlait avec lui, il voyait qu'elle pleurait. Elle pleurait parce qu'il y avait vraiment l'amour qui était dans son cœur. Cette dame, elle a saisi l'opportunité de rendre témoignage au moment où Dieu lui a mis sur son chemin ce monsieur. Et alors qu'il revient au point de rendez-vous avec le dealer, vous savez ce qu'il lui dit le dealer ? « Mais moi j'étais là. Et on t'a vu, mais on ne sait pas pourquoi tu es parti. » C'est comme si Dieu avait aveuglé cet homme pour qu'il aille au point de rendez-vous rencontrer la femme. Et il a compris avec le recul que c'est ce qui s'était passé. Mais quelques temps après, tellement il se souvenait de ces paroles de cette femme, « Jésus t'aime, quelqu'un est capable de prier et de pleurer pour moi. J'ai jamais connu autant d'amour qu'au travers de cette femme. » Alors ils sont allés, lui et son ami, ils sont allés voir la dame. Et alors qu'elle lui, simplement, elle lui a offert un café, ils ont parlé du Seigneur. Jésus t'aime, voilà ce qu'il a fait pour toi. Il a donné sa vie. Il a payé le prix. Tout ce que tu vis comme chaîne, le Seigneur peut l'enlever en un instant. Parce qu'à la croix, il a triomphé de toutes ces choses. Et ses paroles ont commencé à remplir son cœur. Et lui aussi, à ce moment-là, il a saisi l'opportunité. L'opportunité de prendre la parole de Dieu pour la sienne. Et suite à ce rendez-vous-là, il a été totalement délivré de la drogue, totalement délivré de tous les liens qu'il avait sur sa vie. Et il a commencé à voir la vie de Dieu qui a travaillé dans son cœur, qui a guéri son amertume, qui a guéri son désir de se donner la mort. Parce que quand ça allait pas, il voulait tout arrêter. Il voyait que lui-même, il se sentait coupable par rapport à son ami. Mais là, Dieu a guéri tout son cœur. Jésus a fait de lui une nouvelle créature. Et Jésus ne s'est pas contenté de guérir lui, mais son ami aussi, avec qui il s'est marié par la suite, il l'a totalement délivré de la drogue. Elle a été revoir ses parents pour se réconcilier. Elle a été guérie dans ses problèmes de santé alors que la drogue avait fait des ravages. Elle devait faire des opérations compliquées, mais Dieu a guéri physiquement, spirituellement, moralement, tout simplement parce qu'elle a accepté de prendre ce Jésus comme le berger de son âme. Ça vaut la peine de saisir les opportunités quand elles se présentent devant nos chemins. Et ce jeune homme, il s'est marié avec cette jeune fille. Ce jeune homme, il a commencé à aller dans les églises. Il a commencé à suivre le Seigneur vraiment, à être un disciple, à servir le Seigneur. Il est devenu un pasteur. C'est le pasteur, pour ceux qui connaissent, le pasteur Guy Bergamini. Et avec son épouse, pendant des années et des années, ils ont servi le Seigneur. Et je me souviens un camp où j'ai entendu cet homme parler avec force et amour et profondeur et ferveur du Seigneur. J'ai été touché moi-même dans mon cœur par l'intermédiaire de cet homme. Et combien ça vaut la peine quand on saisit l'opportunité. On se rend pas compte ce que ça va faire par la suite. Il est parti cet été, cet homme. Il est parti auprès de son Seigneur. Mais dans mon cœur, à moi en tout cas, Il m'a laissé un souvenir incroyable. Et encore, je ne connaissais pas le témoignage. Mais quand j'ai lu ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, tu fais des choses belles. Ça vaut la peine. Quand on sait, entend la parole de Dieu, de la saisir. On parlait du carrefour tout à l'heure. Pas le magasin, mais le carrefour de nos vies. Il y a des moments où on entend la parole. Et à chaque fois même que l'on entend la parole, c'est un carrefour de notre vie. C'est un carrefour de notre vie où Dieu nous dit, est-ce que tu vas la prendre pour toi ou est-ce que tu vas endurcir ton cœur? Et la question se pose pour nous ce matin. Mais le Seigneur nous invite à saisir l'opportunité et à laisser la parole faire son œuvre en nous. Osons la prudence. Les opportunités ne nous obligent pas à manquer de bon sens. Parfois, on voit des gens qui manquent de bon sens et qui foncent, dès qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à cœur, ils foncent dans la direction sans vraiment demander au Seigneur des confirmations. Mais si vous voulez marcher avec intelligence, avec approbation de Dieu, la bonne main de l'Éternel sur vous, il faut que vous réalisiez que Dieu est celui qui confirme sa parole. Quand Gédéon a reçu une parole claire d'un ange en plus, c'était pas n'importe qui, il a reçu une parole d'un ange. Et pourtant, malgré un ange qui lui est apparu, il a demandé deux signes après que l'ange lui ait parlé. Et encore, c'était pas suffisant. Parce qu'il est allé jusqu'au camp de l'ennemi de nuit, et là, Dieu s'est servi d'un ennemi qui a eu un songe, vous relirez cette histoire, et l'ennemi a confirmé que Dieu avait confirmé déjà tout ça, la victoire. Et il avait vraiment besoin de confirmation. Mais est-ce que Dieu l'a critiqué par rapport à ça? Bien sûr que non. Dieu se plaît à confirmer sa parole et à nous montrer que c'est sa direction dans nos vies. Et nous avons intérêt à demander, Seigneur, je veux que tu me confirmes. Je me souviens, moi, quand j'ai entendu dans une semaine de prière que j'ai fait personnellement devant Dieu, justement, j'avais écouté une cassette avec ce pasteur Guy Bergamini, mais entre autres, avec toutes sortes d'autres pasteurs. Mais à la fin de cette semaine, j'avais besoin d'une confirmation par rapport à quelque chose que Dieu m'avait dit. Et à la fin de la semaine, le Seigneur m'a confirmé. Le Seigneur m'avait montrer que j'allais devenir serviteur de Dieu, alors que j'avais pas envie du tout de ça. C'était le dernier métier que je voulais faire. Mais le Seigneur a changé mon cœur et m'a montré que c'était sa volonté. Et à la réunion de prière qui a suivi, trois personnes sont venues me confirmer ça. Sans que je leur ai demandé quoi que ce soit. Hein. Mais Dieu le savait. Et Dieu m'a confirmé. Attention à ne pas chercher des signes alors que vous avez aucune parole de Dieu. Parce que ça marche pas. Vos signes, c'est des canards. Comme on dit. Eh oui, quand on n'a pas de parole de Dieu, il ne faut pas demander des signes. Il faut chercher la parole de Dieu, il faut chercher la volonté claire de Dieu, et après demander confirmation sur la parole de Dieu. C'est comme cela que l'on est dirigé. Néhémie, il a choisi de faire ça. Une fois qu'il avait la confirmation, l'opportunité de parler, de dire ce qu'il avait besoin, il savait qu'il y avait un décret qui avait été passé pour que les travaux ne puissent pas reprendre. Il a dit, le roi, je voudrais, roi des rois, que tu me donnes des lettres pour les gouverneurs qui sont là-bas, pour qu'ils me laissent passer, pour que tout se passe bien. Il a été sage. Il a utilisé les choses de son temps pour accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous invite à faire de même. Le Seigneur nous invite à aussi observer par nous-mêmes. Vous vous souvenez qu'il a, c'est un de ses frères, on ne sait pas si c'est vraiment son frère ou un cousin, qui est venu lui raconter la situation. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Au bout de 3 jours, il s'est reposé du voyage, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé visiter les ruines. Il s'est pas contenté de on dit. Les murailles qui sont en ruine, les portes sont consumées par le feu. Vous savez que c'est une chance d'entendre des nouvelles, de regarder à la télévision ce qui se passe, dans son fauteuil bien confortablement installé, de voir la misère qui se passe à Saint-Barthélemy. C'est autre chose d'aller sur place et de marcher. D'essayer de marcher là où il y a des cailloux, il y a des arbres, il y a des voitures renversées, de sentir l'odeur du moisi, l'humidité, etc. C'est totalement autre chose quand on est sur place. C'est une chose de regarder un reportage sur l'Afrique et de voir des huttes en terre et de voir comme ça, alors que nous on est dans notre canapé, on ouvre le frigo, on a tout à disposition, lumière, etc. C'est autre chose de vivre sur place. Je parle en connaissance de cause. C'est autre chose que de faire son devoir à la bougie. Quand on a 15 ans parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est ce que j'ai vécu. C'est autre chose que d'aller dans des endroits où ils n'ont rien, mais ils vous offrent le plus beau siège pour que vous puissiez vous asseoir. Et ils vous offrent les meilleurs aliments qu'ils ont pour vous recevoir. Alors que c'est une hutte de terre. C'est quelque chose qui nous impacte. Et vraiment, le Seigneur nous invite à ne pas rester sur des paroles que l'on dit, mais à vérifier par nous-mêmes les situations. Et puis Néhémie, c'est quand même ce type de Christ. Celui qui nous parle par ce passage, parce qu'il nous montre quelqu'un qui fait le tour des ruines, afin de savoir comment il va rebâtir. Ça vaut la peine de laisser le Seigneur Jésus-Christ venir faire le tour de nos ruines, de notre cœur. Ça vaut la peine d'amener le Seigneur là où ça nous fait le plus mal. Ça vaut la peine de se salir les pieds, de mettre les pieds dans le plat, de laisser la poussière du passé remonter un petit peu à la surface pour que le Seigneur Jésus puisse venir guérir. Ça vaut la peine, ça. Parce qu'après, on donne accès au Seigneur pour qu'il manifeste sa gloire dans notre vie. Les ruines de nos vies, ça peut être des relations qui ont été brisées. Ça peut être un péché qui nous a servi depuis tant et tant d'années alors qu'on connaît le Seigneur. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais si nous voulons être dirigés par Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ces endroits intérieurs de notre cœur ou qui sont comme en ruine. Et surtout être précis et dire « Seigneur, tu vois, mon problème, il se trouve là. » Ne pas essayer de masquer en disant « Seigneur, tu vois, je te prie, je lis ta parole, j'ai fait ceci, alors laisse tomber ce qui est là, dans le secret de mon cœur. » Non, non, non. Seigneur, viens. Viens, on y va ensemble. Regarde dans mon cœur là où il y a quelque chose qui est brisé. Parce que toi, tu es celui qui est venu guérir le cœur brisé. Ça, c'est une façon de pouvoir discerner la parole de Dieu. D'amener le Seigneur Jésus avec nous, le laisser faire le tour et de nous donner son intelligence. Néhémie, c'est ce qu'il fait. Il considère les ruines, il réfléchit et Dieu lui montre le plan qu'il a décidé pour lui. Maintenant, pour l'instant, il est tout seul, il n'a rien dit à personne. Mais Néhémie a compris que pour que la direction de Dieu soit vraiment confirmée, c'est comme s'il y avait des feux verts qui s'allument les uns après les autres, des feux rouges plutôt qui s'allument les uns après les autres, qui passent au vert. Et le feu vert suivant, c'est le fait de partager avec des frères et des sœurs, d'ouvrir son cœur. Est-ce que vous aimez parler à votre frère, à votre sœur? Ça dépend. Ça dépend qui? On est d'accord? Est-ce que c'est un péché? Mais non, parce qu'il faut pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un avec qui on a confiance. Et la confiance, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Hop, j'ai confiance. Non, non, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, dans la fidélité, dans le partage. Mais cet homme, il a compris qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis il y a des grandes choses qui nous dépassent que l'on peut faire seulement si on est ensemble. Et il explique, regardez le malheur dans lequel nous sommes, la façon dont il parle en nous. Est-ce que vous aimez parler de l'Église en nous? Des fois, on entend des gens qui disent « Ah, il n'y a pas d'amour dans l'Église !» Oui, mais est-ce que vous en faites partie ou pas? Parce que si vous êtes tellement bien et qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, c'est que vous non plus, vous n'aimez pas. Mais Seigneur, aide-nous à grandir dans l'amour. Aide-nous à aller plus loin dans la communion fraternelle, à partager, pouvoir partager des fois ce qui ne va pas. Je lisais des témoignages, plusieurs témoignages différents de différents jeunes qui disaient qu'ils étaient pris par la pornographie. Et la façon dont Dieu a réussi à toucher leur cœur et à ce qu'ils puissent les libérer de cela, c'est qu'un jour, ils ont accepté de partager ce péché, de le confesser à quelqu'un de confiance. C'est par ce moyen. Tant qu'ils ont essayé tout seuls, ils se débattaient, ils s'enfonçaient de plus en plus. Dès le moment où ils ont confessé leurs péchés les uns aux autres, la Bible nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres et le Seigneur vous guérira. » Et bien, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont été totalement délivrés. Ça vaut la peine de pouvoir confesser notre péché, non pas à la manière catholique où on confesse à un homme, c'est lui qui va nous pardonner. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui pardonne. Mais pouvoir exposer notre cœur à quelqu'un qui va nous dire « Je vais prier avec toi pour que le Seigneur te bénisse. » Ça permet que la direction de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Ça vaut la peine de parler de confesser le péché, mais ça vaut la peine de parler des témoignages, des bonnes choses. Et c'est ce que Néhémie l'a fait. Il a expliqué comment la bonne main de l'Éternel était sur lui. Ça vous arrive que la bonne main de l'Éternel soit sur vous? Il y a des fois, on se retourne et on dit « Mais c'est pas possible. J'ai vécu tout ça, j'aurais jamais imaginé que ça arrive un jour. C'est la bonne main de l'Éternel qui était sur moi. » Mais qu'est-ce que vous faites de cette bonne nouvelle, de ce témoignage? Vous le gardez pour vous ou vous voulez le partager? Moi, j'aime quand je mange avec un frère et une sœur, on partage, on se raconte nos expériences, on est édifié, on se fait du bien, et le Seigneur nous encourage. Et ce qui me touche dans ce passage, c'est que le titre de cette série « Levons-nous et bâtissons », c'est pas Néhémie qui l'a trouvé. C'est pas lui qui a eu ce slogan qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est quand il a partagé ce que Dieu avait fait pour lui, C'est les gens qui l'ont entendu, ils ont été saisis par le même feu, la même ferveur. Ils ont dit, mais oui, on va se lever, on va bâtir. C'est eux qui ont donné ce titre merveilleux que je trouve incroyable, qui résume tellement bien la pensée de ce livre de Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Quand on partage les expériences, quand on partage les témoignages ensemble, alors le Seigneur nous unit d'un même esprit. Le Seigneur nous permet d'aller encore plus loin. La semaine prochaine, on verra cette réalité que Dieu nous donne. Une arme de construction massive. On a peur aujourd'hui avec la Corée du Nord parce que c'est l'inverse qui se passe. Ils sont en train de déployer les missiles intercontinentaux, etc. Arme de destruction massive. Mais Dieu nous donne une arme de construction massive. Vous savez c'est quoi? C'est l'unité. Néhémie chapitre 3, vous lirez ça pour la semaine prochaine. C'est le devoir. Interrogation écrite à la fin. Non, vous inquiétez pas. Mais je voudrais terminer avec cette pensée, que si nous voulons savoir si nous sommes dirigés par le Seigneur, si la bonne main de Dieu est sur nous, nous devons être prêts à comprendre qu'il ne faut pas craindre les oppositions. Quand nous sommes dans les oppositions, quand on voit qu'il y a des obstacles qui se dressent, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous laisse tomber, mais souvent ça vient confirmer. Bien sûr, si on a fait toutes les étapes précédentes, hein, si on pêche et qu'on a comme conséquence des oppositions à cause de notre péché, c'est pas la volonté de Dieu, hein, laissez-moi vous le dire. Mais quand on fait la volonté de Dieu, on prie, on intercède, on saisit l'opportunité, on ouvre son cœur, on demande à des conseillers autour de nous de nous dire si c'est bien ou pas. Le salut, nous dit la parole de Dieu, est dans le grand nombre de conseillers. Quand on a vérifié tous ces feux verts et qu'on voit des oppositions se dresser, laissez-moi vous dire que c'est une des plus grandes marques que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Parce que quand un chrétien est endormi spirituellement, l'ennemi le laisse très tranquille. L'ennemi même, il vient le bercer dans son fauteuil spirituel. Il lui chante une berceuse spirituelle. Et il lui chante même un cantique en lui disant « T'inquiète pas, dors. La paix de Dieu, la paix de Dieu. » Oui, si on dort spirituellement. Mais si on se lève et on dit « Non, moi je veux bâtir, je veux renverser les œuvres du diable par la puissance de Jésus-Christ, avancer, remporter des victoires, permettre qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, que les lumières triomphent des ténèbres dans cette ville de Moissac, dans mon village, dans mon quartier. Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. » Alors, laissez-moi vous dire que là, il y a des oppositions. Là, il y a des sambalas qui vont se lever. Il y a, je sais plus les prénoms, il y a toutes ces personnes, Tobija, qui vont se lever, des Guéchem qui vont se lever en disant « Nous, on n'est pas d'accord. » Mais ça, c'est la marque de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons que la bonne main de l'Éternel soit sur nous? Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont connu des oppositions et qui étaient vraiment, on ne peut pas douter qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Demandez à Joseph, est-ce qu'il a connu des oppositions? Oh, pas tant que ça. Enfin, il était vendu par ses frères. Il a failli être tué par eux, mais il a été vendu finalement. Il a été mis en prison alors qu'il était totalement juste. Il a voulu se garder pur par rapport à une femme qui le convoitait. Et c'est lui qui a fini en prison. Il a été oublié par un échanson, mais un mauvais échanson qui pensait plus à lui alors qu'il lui a rendu service. Il a eu des oppositions, mais il est tenu ferme et Dieu l'a béni. Demandez à Job. Job, il était agréable à Dieu. Il était intègre et droit. C'est ce que Dieu nous dit, le témoignage de Dieu qui nous est dit par rapport à cet homme. Et pourtant, il y a eu des oppositions. Et quelles oppositions aussi? Jésus, est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est plus que ça, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémané, dans la pleine volonté de Dieu, il a rencontré les oppositions du diable qui est venu avec ses angoisses, avec son lot de tristesse. Je suis triste jusqu'à la mort. Seigneur, délivre-moi de cette heure. Le Seigneur ne voulait pas mourir à Gethsémané. Il voulait aller jusqu'à la croix pour accomplir la victoire. Ce qui nous donne la victoire ce matin, qui nous permet de vivre, nous, dans la volonté de Dieu. On va fermer les yeux. Mais même les hommes de Dieu, même le Fils de Dieu a connu les oppositions. Si nous connaissons des oppositions alors que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, alors soyons encouragés. Réjouissez-vous quand toutes ces choses vous arriveront. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et le Seigneur vous promet sur la terre que sa bonne main sera sur vous. Seigneur, je te demande par ta grâce, oui, que ta bonne main puisse nous conduire, nous diriger. Tu connais les vies qui sont là ce matin. Tu vois celui qui a besoin que cette bonne main puisse apporter la guérison. Celui qui a besoin que cette bonne main apporte le salut dans sa vie. Tu connais celui qui a besoin que cette bonne main puisse le diriger à un carrefour de sa vie où il y a des choix importants. Tu es le Dieu qui veut communiquer ta grâce, ta paix, ton amour. Toutes ces choses, Seigneur, elles se trouvent dans ta main. Nos vies, Seigneur, elles sont gravées dans ta main. Et nous voulons être de ceux qui, comme Néhémie, se lèvent afin d'être dirigés par toi. Seigneur, donne-nous ce cœur qui saisit les opportunités, qui sait parler de Dieu quand il y en a l'occasion. Ces personnes qui savent prier de manière brève et agir quand il le faut. Donne-nous d'être de ceux qui ouvrent leur cœur à leurs frères, à leurs sœurs, qui ont cette communion véritable et qui sont forts parce qu'ils ont compris que la force que nous avons, c'est l'union des uns et des autres avec toi. Merci Seigneur pour ta parole et bénis chacun d'entre nous en particulier, selon le besoin de nos cœurs, Seigneur. Amen.